La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, ici c'est Gaël Cozandet, je suis pasteur de l'église adventiste. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous sur la notion d'église. Spontanément, le mot évoque souvent un lieu. Les chrétiens disent « je vais à l'église » ou, suivant les communautés, ils vont dire « je vais au temple ». Or, ce que nous ont montré les événements liés à la pandémie de Covid-19, c'est que la nécessité de distanciation sociale a posé un énorme défi à toutes les communautés religieuses. En effet, le fait de se voir, se rencontrer, se rassembler souvent chaque semaine, c'est l'une des parties les plus importantes de notre vie spirituelle. Quelles que soient les religions, c'est ensemble, physiquement, que l'on communie. Alors, que devient l'Église lorsqu'elle ne peut plus se réunir? Bien sûr, il y a d'autres moyens par lesquels on communie et les communautés religieuses ont investi les technologies modernes pour garder le lien. Bien avant Internet, des premiers parchemins écrits jusqu'à la radio sur laquelle je parle maintenant, l'Église a eu d'autres moyens de transmettre la parole. De plus, ce n'est pas la première fois dans l'Église que les chrétiens n'ont pas pu se réunir comme ils en ont l'habitude. On peut penser à toutes les communautés persécutées, que ce soit les premiers chrétiens qui se cachaient dans les catacombes à Rome, ou pendant les guerres de religion entre catholiques et protestants, ou enfin les églises clandestines actuelles dans les pays à régime totalitaire. L'ONG Porte Ouverte estime à 260 millions le nombre de chrétiens fortement persécutés dans le monde, c'est-à-dire pas moins de 1 chrétien sur 8. Et la plupart d'entre eux ne peuvent pas se réunir ou doivent le faire en cachette. Et pourtant, l'histoire a montré que malgré les persécutions, malgré souvent l'impossibilité de se réunir, l'Église a continué à se développer, parfois même davantage qu'en temps de liberté. Comment est-ce possible? Et qu'est-ce que cela peut nous dire aujourd'hui alors que nos communautés sont bousculées dans leurs habitudes? À l'heure où je partage ces réflexions, les Églises reprennent précautionneusement le chemin des rassemblements avec des règles très contraignantes, mais ces événements nous forcent à réfléchir au sens de l'Église, souvent réduit à des réunions hebdomadaires dans un bâtiment. Qu'est-ce que l'Église? Quelle est sa mission aujourd'hui et dans ces conditions? C'est là qu'il est intéressant de retourner dans la Bible et d'y observer l'histoire des temples jusqu'aux communautés chrétiennes ou comment nous sommes passés d'un temple-lieu à un temple-lien. Bien que des temples existent déjà depuis très longtemps, ce n'est qu'avec Moïse que le peuple d'Israël a eu son premier temple. Et ce fut un temple portatif puisque c'était une tente. Le récit biblique raconte que ce peuple sémite, issu de la descendance d'Abraham, s'est installé en Égypte dans lequel il a vécu pendant 400 ans. D'abord bien accepté, puis réduit en esclave, les Israélites sont finalement libérés lorsque Dieu envoie Moïse pour accomplir cette mission. Au sortir d'Égypte, le peuple d'Israël est donc une ethnie, avec pour seule identité un ancêtre commun et la culture égyptienne dans laquelle ils ont vécu. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu va donc leur donner des lois qui vont les structurer en tant que peuple et leur donner leur identité. C'est dans ce contexte que le premier temple est mentionné. Nous lisons dans Exode, chapitre 25, les versets 8 et 9. C'est Dieu qui parle à Moïse. Les Israélites me feront un lieu saint et j'habiterai au milieu d'eux. Je vais te montrer le plan de la tente sacrée et les modèles à suivre pour fabriquer les objets, vous les ferez exactement comme cela. Et Dieu donne ensuite des instructions pour la réalisation de ce temple. Ce qui est intéressant, c'est la raison que Dieu donne pour faire ce temple. Il dit qu'avec ce sanctuaire, il pourra habiter au milieu d'eux. Voilà ce que Dieu désire, habiter avec son peuple. Il ne veut pas rester loin de lui, là-haut dans le ciel, il désire être en bas, au milieu de son peuple. D'ailleurs, c'était littéral, puisque les différentes tribus qui composaient le peuple d'Israël vont recevoir un plan, avec chacune sa place de campement attitrée aux quatre points cardinaux autour du sanctuaire. Ce premier temple du peuple d'Israël était un tabernacle, c'est-à-dire une tente, où tous les éléments étaient démontables, avec des anneaux où on pouvait passer les barres, permettant ainsi de tout déplacer à dos d'homme. Ce temple accompagnait donc le peuple nomade dans ses pérégrinations. Dieu marchait ainsi avec eux. Mais pourquoi avoir besoin d'un temple pour être avec son peuple? Est-ce que Dieu ne pouvait pas simplement se présenter en personne, comme il parlait à Moïse? En fait, cela correspondait à la fois à une demande de Dieu et à une demande du peuple. Au moment où Dieu a donné sa loi à Moïse, tout le peuple a été témoin de la présence de Dieu sur la montagne du Sinaï. Dans Exode chapitre 20, le fameux chapitre des 10 commandements, nous lisons que le peuple entendait des tonnerres et des sons de trompettes et il voyait des flammes et la montagne fumait. Alors ils ont eu tellement peur de Dieu qu'ils ont demandé à Moïse d'être leur intermédiaire et eux-mêmes se tenaient à distance. Un peu plus tard, le peuple, ne voyant pas revenir Moïse, a pensé qu'il était mort et ils se sont tournés vers l'idolâtrie avec l'épisode du veau d'or. Et Dieu doit faire insister Moïse pour qu'il le supplie de leur pardonner et de quand même les accompagner. Bref, tout cela montre un problème. Comment faire coexister ce peuple pécheur, qui en plus a peur de Dieu, avec ce Dieu si saint que même Moïse ne peut pas le voir et vivre, comme Dieu va le lui dire à cette occasion? Eh bien, c'est à ça que devait servir le sanctuaire. Cette tente jouerait le rôle de point de rencontre entre ciel et terre, entre Dieu et son peuple, avec tout un protocole visant à protéger le peuple tout en permettant une forme de rencontre avec Dieu. Et donc, il y avait toutes sortes de procédures qui réglementaient l'accès au temple seulement à certaines personnes, dans certaines circonstances, etc. Le peuple apportait des animaux aux prêtres pour demander le pardon à Dieu, transférant ainsi leurs péchés sur les animaux sacrifiés. Et seulement une fois par an, le grand prêtre se rendait dans la partie la plus sainte du temple, devant la fameuse Arche de l'Alliance dont Steven Spielberg a sorti l'un de ses films d'Indiana Jones. Si je résume, le premier temple était donc une tente qui permettait une forme de contact entre Dieu et son peuple, mais avec un protocole très strict pour séparer le saint du profane. Ce temple va être en activité pendant toute la période où le peuple va être dans le désert jusqu'à son entrée dans le pays de Canaan. À ce moment-là, il sera installé dans un lieu appelé Gabaon. Après l'installation, puis la période chaotique des juges, vient le temps des premiers rois d'Israël. Le second roi sera le fameux David, dont la culture populaire retiendra surtout son combat contre Goliath. Longtemps fugitif à cause du roi en place, David parvient finalement au pouvoir et établit la capitale d'Israël à Jérusalem. C'est un fervent adorateur de Dieu et il forme le projet de remplacer la tente du désert par un temple en dur. Il consulte donc l'un de ses conseillers qui est un prophète et il s'en ouvre à lui sur son projet. Dans la nuit qui suit, le prophète reçoit un message de Dieu qu'il transmet à David. Nous lisons dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 à partir du verset 5, voilà ce que Dieu dit à David. « Ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je puisse habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure. Bien plus, durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le soin de gouverner Israël, mon peuple, mais je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne pas m'avoir construit un temple en bois de cèdre. » Et un peu plus loin, Dieu rajoute « Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai ta descendance pour toi et j'affermirai son règne. C'est lui qui me construira une maison et moi je l'installerai sur un trône inébranlable. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » La réponse de Dieu montre une certaine ambiguïté par rapport à l'idée d'un temple. Visiblement, ça ne le dérangeait pas d'avoir simplement une tente. Jamais il n'a demandé à Israël de lui construire un temple. Ça, c'est l'initiative de David, qui avait peut-être un peu honte d'habiter dans un beau palais et de laisser Dieu dans une tente. Et puis, Dieu refuse que ce soit David qui lui construise une maison. Il lui dit que ça sera sa descendance qui le fera après sa mort. Et Dieu lui retourne même la faveur. Finalement, c'est Dieu qui va construire une maison à David, c'est-à-dire que Dieu annonce que le règne de la lignée de David sera éternel. David remercie le Seigneur et pense donc que ce sera l'un de ses fils, son successeur sur le trône, qui construirait un temple à Dieu. Quand même frustré de ne pas pouvoir construire le temple, David va tout préparer à l'avance pour la construction, des matériaux jusqu'au futur personnel qui officierait dans le temple. Son successeur n'aurait qu'à assembler les morceaux. Et c'est finalement son fils Salomon qui va construire un temple dont la grandeur et la magnificence restent jusqu'à ce jour dans la mémoire du peuple juif. Cependant, même là, une certaine ambiguïté demeure sur le temple. Dans sa prière de consécration de l'édifice, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27, Salomon dit « Mais Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre ? Les cieux, malgré leur immensité, ne peuvent déjà pas le contenir, encore moins ce temple que j'ai construit. » Salomon est conscient qu'un temple ne peut pas contenir Dieu. Par contre, il demande à Dieu d'y venir malgré tout et d'y entendre les prières de son peuple. L'équivalent de l'histoire que nous trouvons dans les chroniques raconte qu'à ce moment, la présence de Dieu a rempli le temple au point où personne ne pouvait y entrer. Le Dieu omniprésent s'est réduit pour manifester sa présence dans un lieu. Alors ce temple de Salomon va marquer des générations d'Israélites. Mais les rois qui vont se succéder vont s'éloigner du Dieu et multiplier les idolâtries et les injustices. Dieu va leur envoyer des prophètes pour les avertir et les enjoindre à revenir à lui, mais c'est peine perdue. Finalement, le magnifique temple de Salomon est détruit en 587 avant notre ère par les armées babyloniennes qui emmènent le peuple d'Israël en exil. Et c'est un coup terrible pour le peuple d'Israël. Petit à petit, le temple était devenu pour eux le lieu de résidence de Dieu. Le temple étant détruit, eux-mêmes exilés loin de Jérusalem, cela signifiait que Dieu n'était plus avec eux. Ce n'est que 70 ans plus tard que des Israélites sont autorisés à revenir en Palestine et vont entreprendre la reconstruction d'un temple. Le récit, rapporté par le livre d'Esdras, nous raconte le mélange d'émotions éprouvées par le peuple au moment de l'inauguration. Autant il y avait de la joie de retrouver un temple qui était le symbole de la renaissance de la nation autour de sa foi, autant les anciens qui avaient connu le temple de Salomon, bien eux, ils pleuraient en regardant ce nouveau temple si modeste. 5 siècles plus tard, le roi Hérode va construire des extensions massives à ce temple, dont il reste aujourd'hui un mur que l'on peut encore visiter à Jérusalem et devant lequel les Juifs viennent se recueillir et prier. C'est dans cette période d'Hérode qu'apparaît un certain Jésus de Nazareth qui va bouleverser le sens du temple. En effet, il y a une ambiguïté supplémentaire qui réside sur le temple, c'est sur l'identité de la personne qui le construirait. David, en son temps, avait pensé que cela concernait son fils direct, Salomon. Mais si on regarde bien le message initial de Dieu, on peut aussi bien comprendre un fils direct qu'un descendant. Qui serait donc ce constructeur du temple qui pourrait s'asseoir sur le trône de David pour toujours ? C'est là que ce Jésus de Nazareth amène une vision révolutionnaire. Dans le récit que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, donc vers le début de son ministère, Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Il en chasse les marchands et se révolte contre le commerce du pardon qui exploite les pauvres. Et lorsque les responsables locaux lui demandent de quel droit il fait cela, voilà ce que Jésus répond, c'est au verset 19. « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Sacrilège ! Ce Jésus de Nazareth parle de la destruction du temple et se prend lui-même pour le temple. Mais si on réfléchit à toutes les ambiguïtés des temples successifs d'Israël, cela commence à faire sens si on pense à Jésus. Premièrement, Dieu n'a pas demandé de temple, juste une tente nomade qui puisse marcher avec son peuple. De la même manière, Jésus a été ce nomade qui a marché au milieu des hommes. Deuxièmement, le temple de Salomon ne pouvait pas contenir Dieu et pourtant celui-ci réalisait le miracle d'y faire résider sa présence. De la même manière, Dieu a fait résider sa présence dans la personne de Christ. Troisième point, quand David a entendu Dieu lui dire que ce ne serait pas lui mais sa descendance qui bâtirait le temple, eh bien Jésus de Nazareth est de la tribu de Juda, descendant de la lignée royale de David. C'était lui ce descendant qui bâtirait le véritable temple que des hommes comme David ou Salomon ne pouvaient pas construire. Enfin, Jésus remplit toutes les fonctions du temple qui permettaient le pardon. C'est lui l'agneau sacrifié, et c'est lui le grand prêtre qui va porter le sang jusqu'à l'arche de l'Alliance pour purifier les péchés du peuple. Donc, avec Jésus, tout se connecte. Le véritable temple, c'est lui, parce qu'en mourant sur la croix et en ressuscitant, il devient ce lieu qui permet la rencontre avec Dieu. D'ailleurs, un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean au chapitre 4, Jésus discute avec une femme samaritaine. Or, la question la plus épineuse qui générait le conflit entre juifs et samaritains à l'époque, c'était celle du lieu de culte. Alors que les juifs disaient que le bon lieu pour adorer, c'était Jérusalem, les samaritains soutenaient que c'était dans leur région, dans leur temple du mont Garizim, que l'on devait adorer Dieu. Et dans sa discussion avec Jésus, la femme ne manque pas de soulever le débat pour savoir comment Jésus allait s'en sortir. Eh bien, voici la réponse de Jésus au verset 20. « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et à la fin de la conversation, la femme samaritaine reconnaît en Jésus le Messie annoncé. Donc, depuis le temps du Christ, le temple n'est plus un bâtiment. Ce n'est pas plus un lieu dans une ville, c'est une personne. C'est Christ lui-même. Mais ça va encore plus loin. Par extension, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui acceptent le lien avec Dieu qui leur est offert en Christ, deviennent à leur tour le temple. Pour l'expliquer, les auteurs bibliques utilisent plusieurs images. L'apôtre Paul utilise l'image du corps. C'est un ensemble qui est composé de parties différentes, mais tellement unies et en synergie les unes avec les autres qu'elles ne forment qu'un seul corps. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 18, Paul appelle Jésus la tête du corps de l'Église. Jésus étant un temple, alors son corps est une extension de ce temple. De son côté, l'apôtre Pierre va utiliser l'image des pierres, justement, ce qui n'est bien sûr pas un hasard. Dans sa première lettre, chapitre 2, à partir du verset 4, il dit « Approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire le temple de l'Esprit-Saint. » Et de la même manière, Paul va dire que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ainsi, Dieu n'habite plus dans des pierres, mais par le Saint-Esprit, il habite dans des cœurs. Christ a fait le lien entre le ciel et la terre, il n'y a plus de séparation et les croyants deviennent à leur tour des temples et ainsi des points de contact entre Dieu et le monde. Et tout se tient, jusque dans la fin des temps, avec cette description de la Nouvelle Jérusalem que nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 22. Jean dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Plus besoin de temple, parce qu'il peut y avoir un contact direct entre Dieu et les hommes. C'est ainsi que nous sommes passés du temple lieu au temple lien. D'ailleurs, les premiers chrétiens ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils se réunissaient dans des maisons. C'était dans les maisons que l'on partageait la parole et le pain, que l'on chantait et que l'on prenait soin les uns des autres. Alors, oui, ils continuaient à se rendre au temple pour prier, selon leur coutume, mais lorsque la persécution les a chassés loin de Jérusalem, ce sont autant d'églises qui se sont disséminées dans tout le bassin méditerranéen, parce qu'ils étaient eux-mêmes devenus les temples du Seigneur. Et finalement, c'est comme ça que l'Église du Christ a traversé les époques et les épreuves et qu'elle est restée temple de Dieu, même au temps des persécutions jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que cela peut nous dire aujourd'hui? Je crois que l'expérience du confinement que nous avons vécu et que certaines parties du monde vivent encore à l'heure où j'enregistre cette émission, eh bien, c'est l'occasion de réfléchir au sens de l'Église. On pourrait être tenté de croire que lorsque les lieux d'Église sont fermés, alors l'Église elle-même est en pause, en attente de pouvoir redémarrer. Mais bibliquement, quand les bâtiments sont restés fermés, l'Église est restée ouverte. Réduire l'Église à des réunions dans un bâtiment, même si cet aspect est important, c'est risquer de passer à côté de notre véritable nature et de la mission que Dieu nous donne dans ce monde. Contemplez le Christ et vous verrez un temple. Et si vous croyez en lui, regardez-vous dans un miroir, là aussi vous verrez un temple. Parcourez votre maison, c'est une église. Comptez chacun de vos liens d'amour avec d'autres cœurs, ce sont autant de sanctuaires pour la présence de Dieu. Voilà le plan que le Seigneur a mis en place. Alors aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et vous révèle le temple qu'il veut faire de vous en Jésus-Christ. Amen.
Une chose.